Christophe Brulé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président d'Inteca Finance. On va parler avec vous de marché, de perspectives sur ces marchés après un été plutôt favorable, hein, on peut le dire. Comment vous envisagez l'automne, hein, avec cette météo un peu capricieuse sur les marchés?
Alors oui, c'est vrai qu'on peut rappeler que l'été a été pour une fois assez clément, favorable. On a eu un début d'année très porteur, on a eu une deuxième phase de début d'année moins porteur, hein, puisque avant d'arriver à l'automne, il faut rappeler que les marchés ont consolidé pendant l'été et puis un petit peu avant au printemps d'environ 5-6% par rapport au plus haut, hein, au niveau marché européen. Et donc on amorce l'automne avec des éléments plutôt favorables pour les actifs risqués. Donc on est assez confiant d'ici la fin d'année.
On regarde toujours bien sûr ce qui se passe sur les taux, donc ce qui se passait notamment aux États-Unis avec la réserve fédérale américaine. Est-ce qu'il y a un changement de vision un peu sur peut-être le schéma qu'avaient envisagé les investisseurs pour cette année?
Alors le schéma envisagé par les investisseurs, j'ai envie de dire, il a été pris à contre-pied, notamment avec la hausse de l'euro contre toute devise. Hein. Peu d'intervenants avaient anticipé ce mouvement. Donc on est dans une économie mondiale qui est en reprise de façon synchrone dans l'ensemble des zones. On a une zone euro qui se porte bien, un mouvement assez violent sur l'euro, et ça remet en cause les hausses de taux qu'on attendait de la part de la Fed. À l'automne et depuis le début de l'année. Donc, on a eu moins de hausses de taux que prévu et on n'est même pas certain qu'en 2018, on aura finalement le nombre de hausses de taux attendues, soit deux ou trois, pour une raison assez simple, c'est que malgré la croissance, l'inflation n'est toujours pas conforme à ce que les banquiers centraux voudraient, c'est-à-dire un niveau de 2%. On va être en zone euro autour de 1,3%, aux États-Unis un 6, un 7. Donc vous voyez qu'on a du mal à atteindre la cible des 2%. Donc les politiques monétaires vont, à mon sens, rester toujours assez souples.
Alors aux États-Unis, il faut dire aussi que les investisseurs avaient anticipé les plans, notamment sur les infrastructures de Donald Trump, du président, et que du coup, le retard sur cette partie-là, finalement, remet à plus tard un effet sur l'économie.
Alors, l'effet sur l'économie, c'est vrai qu'il est difficile à cerner aujourd'hui. Beaucoup de stratégistes pensaient que l'économie américaine était en bout de souffle et que avec Trump, ça allait redonner un allant. Moi, je pense qu'on est vraiment dans des schémas différents par rapport à ce qu'on connaît, c'est-à-dire que les économies avancent avec un niveau de croissance plus long, assez mou, mais les cycles sont plus longs. Donc tout le monde se trompe, à mon avis, sur le fait de dire l'économie américaine arrive en bout de course. Par rapport à Trump, le sujet, c'est, je reviens à la parité euro-dollar, c'est que finalement l'économie américaine se porte bien. Les marchés actions américains ont anticipé les effets Trump qui ne sont pas là, sauf que le marché a pris 10-12%. Sur les valeurs technologiques, Nasdaq, on est plutôt autour de 18%, mais ramené en euros pour nous, investisseurs européens, c'est en fait un marché qui est négatif, qui a fait du moins 2%. Par rapport donc à ce qui était attendu par l'administration Trump, aujourd'hui, on n'a rien eu, faut dire les choses. On n'a rien eu du tout sur l'Obamacare, les réformes fiscales. On sent que ça va venir pour la fin d'année et qu'il y a un changement, je pense, de ton ou de méthode de l'administration Trump et qu'ils vont se rapprocher des démocrates pour réussir la réforme fiscale et ne pas dépasser le plafond de la dette, puisque les républicains, eux, ne veulent pas dépasser le plafond de la dette. Donc il va bien falloir faire un compromis avec les démocrates pour réduire la fiscalité et enfin donner quelque chose de tangible par rapport à ce qui était attendu.
Alors, si on revient de ce côté-ci de l'Atlantique, avec la BCE, là, on commence à entrevoir peut-être un quantitative easing un peu plus restreint. On sent que ça se change aussi un peu ou c'est encore trop tôt?
Je pense, encore trop tôt. On voit bien la difficulté, le corner dans lequel est la Banque centrale européenne, puisqu'elle a mis en place des taux négatifs, des taux administrés négatifs jusqu'aux 5-7 ans en Allemagne. Les taux longs sont devenus quasiment des taux administrés avec les achats de dettes publiques massive. Et donc, il faut forcément sortir de cette situation. Mais c'est compliqué parce que dès que Mario Draghi évoque la sortie de QE, l'euro se réapprécie et ça remet à mal la croissance européenne qui est en train de s'affirmer. Alors, quand je dis ça la remet à mal, c'est un peu exagéré, hein, puisqu'un niveau de 1,20-1,22, c'est un niveau euro-dollar qu'on a eu depuis très très longtemps, donc c'est un retour à la normale, j'ai envie de dire, donc c'est pas non plus catastrophique. Mais pour sortir du quantitative easing, il faut que les objectifs d'inflation soient là, hein, donc je redis les 2%, et on n'y est pas. On est vraiment dans un monde où on n'a pas la corrélation prix-salaire et hausse de l'inflation. On est dans un monde où l'inflation est, pour les raisons on a déjà parlé, hein, ubérisation, digitalisation, structurellement plus basse qu'avant. Et donc, oui, il faut sortir du quantitative easing. Donc, on a repoussé de septembre à octobre la façon dont il doit s'y prendre, mais on peut très bien envisager qu'en octobre, finalement, il soit également amené à dire que ça sera très long, progressif, ce que je pense qu'il fera pour pas pousser l'euro à 1,25 ou voire un peu plus.
Un mot des marchés émergents, ils avaient été largement ignorés, hein, dans cette perspective de hausse des taux américains. Finalement, bah, avec le changement un petit peu de vision, ils ont repris de l'intérêt. Comment on les envisage aujourd'hui?
Alors nous, on reste assez favorable sur les actions émergentes et la dette émergente. Hein. Je le rappelle, la dette émergente, c'est un taux de rendement, taux de portage de 4,5-5%. Donc comparé à nos placements négatifs en souverain euro ou très faibles sur les entreprises européennes, on voit bien qu'il y a un intérêt à avoir des placements obligataires en dette émergente. Donc c'est ce qu'on fait dans nos portefeuilles en termes de diversification. Après, les marchés émergents, c'est toujours des marchés soumis aux apports de capitaux et aux retraits de capitaux. Et tant que l'économie américaine ne pousse pas les taux à la hausse et qu'on a un dollar assez faible, je pense qu'on peut rester assez favorable sur les actifs émergents, qu'ils soient obligataires ou actions, d'autant plus qu'on a des signes, enfin, encourageants qui viennent de Chine. On n'a pas du tout eu le hard landing programmé en 2016. On a plutôt une économie qui tourne bien. On a le congrès du Parti communiste en octobre en Chine. C'est généralement des moments où l'économie se tient raisonnablement bien. Et puis dans les autres pays, on a également des niveaux de croissance intéressants et des croissances bénéficiaires des entreprises qui sont très convenables. Donc oui, on est assez confiant et on est même plutôt positif encore sur les 3-6 mois à venir sur les marchés émergents.
Merci à Christophe Brolier d'avoir fait le point avec nous.
Merci.